cours de philosophie éthique par le père Philippe à Saint-Jeudard le 16 février 1988.
Essayons de comprendre comment cette attitude de l'homme reconnaissant qu'il est une créature totalement dépendant de l'être créateur, de Dieu créateur, acquiert progressivement par l'adoration cette vertu de religion qui met dans notre volonté, dans ce qu'elle a de plus fondamental, une attitude de dépendance, mais une dépendance aimée, une dépendance aimante. C'est là où on voit comment reconnaître qu'on est une créature de Dieu. On est porté par l'acte créateur de Dieu. Et que cet acte créateur de Dieu, en Dieu, il est Dieu lui-même. Et donc il est éternel, il est toujours actuel. Actuellement, Dieu crée mon âme. Il faut arriver à penser cela. Penser métaphysiquement, vous voyez. Les traditions religieuses me le disent, mais les traditions religieuses, je les accepte comme ça, par mode d'opinion, ça peut aller très loin du reste. Hein. Mais on peut aller plus loin. Le regard métaphysique va plus loin que les traditions religieuses. Je sais que ça scandalise quand on dit ça, mais je le dis quand même. Le regard métaphysique va plus loin que les traditions religieuses. Comprenons bien, pas que la foi, mais que les traditions religieuses. Les traditions religieuses, c'est pas la foi. Les traditions religieuses, ça charrie des quantités de choses affectives qui sont plus ou moins limpides, vous savez, comme des petits torrents quand c'est des jeux et qui viennent pleuvoir, on voit très bien que c'est pas d'une limpidité absolue. C'est ça les traditions religieuses. Et plus elles sont élevées, plus elles charrient des tas de choses. Les traditions religieuses chrétiennes, par exemple, ça charrie des quantités de choses qui ne sont pas le Christ, qui ne sont pas la foi dans le Christ. Les traditions religieuses familiales. J'appartiens à une famille traditionnellement religieuse. Qu'est-ce que ça veut dire, hein? Votre foi personnelle vous met au-delà de ces traditions religieuses. Et si vous avez un regard métaphysique, pas logique, hein, métaphysique, votre regard métaphysique purifie ces traditions religieuses en voyant ce qu'il y a de grand dans ces traditions religieuses. Vous ne les balancez pas. Vous ne vous opposez pas à ça, mais vous les filtrez. C'est un filtre. Ça laisse tomber toutes les choses qui sont des bavures. Et vous voyez l'essentiel de cette tradition religieuse. Et l'essentiel de cette tradition religieuse, c'est que actuellement, Dieu crée mon âme. Et quand je comprends cela, je suis libre par rapport à ces traditions religieuses. Je ne les condamne pas. Elles sont un milieu qui me conditionne, mais c'est mon intelligence métaphysique, dans un regard de sagesse, qui me fait comprendre cette dépendance radicale à l'égard de Dieu. Mon âme, actuellement, est créée par Dieu. Et si mon âme, actuellement, est créée par Dieu, je suis dans cette dépendance totale vis-à-vis de lui. Et je reconnais cette dépendance. Je l'aime, puisque cet acte créateur est un acte d'amour et de surabondance d'amour. Puisque cet acte créateur est un acte de sagesse, lumineux. Dieu me crée dans sa contemplation, c'est merveilleux. C'est lumineux du côté de Dieu. Toutes les opacités viennent de moi. Viennent de mon corps, hein. Très opaque. Mon corps, naturellement, n'adore pas le vieil âne. Hein. Vous tapez dessus de temps en temps, hein, pour qu'il adore. Pour qu'il se mette à adorer. Parce que le vieil âne, il porte des tas de choses. Hein. Je sais pas très bien, en plan philosophique, ce qu'il porte, mais c'est quelquefois très lourd. Le théologien dira, pas étonnant, conséquence du péché originel. Mais le philosophe ne peut pas le savoir. Il voit qu'il a une propension vers le sensible. Or, quand on adore, on dépasse le sensible. Une propension vers sa propre exaltation. Notre moi vaniteux. C'est notre moi vaniteux n'aime pas du tout l'adoration. Ou pas du tout. Il fait le paon. Le paon, quand il fait le paon, il n'adore pas, vous savez, il se regarde. Il est de multiples couleurs. Et le dindon, quand il fait le pan, quand il fait la roue, c'est encore mieux, n'est-ce pas? C'est extraordinaire, ça. C'est ça, la vanité. Et puis l'orgueil. J'aime pas de me mettre à genoux. Il y a des gens qui vous disent ça, comme ça. Je n'aime pas de me mettre à genoux. Je n'aime pas de reconnaître ma dépendance. Il y a des poussées d'orgueil, comme ça. Autonomie. On critique tout. Il n'y a que nous. Et l'orgueil. On sent très bien ça. Même au plan purement humain, je sens très bien ça. L'adoration me met au-dessus de tout ça. Vous voyez tout ce petit milieu intérieur, psychique que je porte, que philosophiquement je ne peux pas déterminer d'une manière absolue. Je sens bien qu'il y a des orientations vers ça. Je dépasse tout cela dans l'adoration et je reconnais que ce qu'il y a de plus limpide en moi, ce qu'il y a de plus vrai en moi, c'est de me reconnaître dans cette dépendance à l'égard d'un acte créateur qui est un acte d'amour, qui est un acte de lumière et de sagesse. Et je me remets entre les mains de celui qui m'a créé. Il y a un certain repos dans l'adoration. Je me remets, je m'abandonne au sens fort. L'adoration me met dans cette attitude fondamentale d'une dépendance amoureuse à l'égard du Créateur, à l'égard de ce Créateur qui est Père. Et je sais que j'ai là un lieu de refuge. Un refuge merveilleux, c'est pas un refuge, c'est en même temps une exaltation merveilleuse. Savoir qu'on est créé immédiatement par Dieu, au-delà de tout atavisme, au-delà de tout conditionnement humain. On est créé directement par Dieu. Et le dépassement et la libération. Quand vous adorez, vous vous libérez de tout ce conditionnement terrible, hein, que peut représenter des traditions familiales, que peut représenter un atavisme, que peut représenter des choses lourdes à porter. La ressemblance qu'on a vis-à-vis de ses parents, c'est quelquefois lourd à porter. Ou la ressemblance qu'on a vis-à-vis d'un grand-oncle qui est un schnappant. On a tous un grand-oncle schnappant, hein. Tous. Vous ne le connaissez pas parce qu'on l'a bien mis loin, loin, loin. Puis un beau jour, vous découvrez, tiens. Ah, c'est pas étonnant que moi j'ai envie de tuer, c'est pas étonnant. J'ai une poussée là, très radicale. L'adoration me met au-dessus de tout ça. Je suis dans une limpidité de lumière et d'amour. C'est extraordinaire ça. La libération que donne l'acte d'adoration. Il faut découvrir ça. Ça ne se fait pas tout de suite. Il faut un acte d'adoration qui est fort. Et ça, c'est capital. J'adore. Et en adorant, j'acquiers cette vertu de religion qui met en moi ce pli, cette orientation qui fait que, naturellement, je suis polarisé par le Créateur. Et je m'oriente vers lui. Ça devient la pente la plus profonde de moi. Ça ne supprime pas les autres pentes. Ça ne supprime pas toutes les autres séductions. Je les sais. Elles existeront tout le temps. Je serai séduit par le sensible immédiat. Je serai séduit par ce désir de me gonfler. La grenouille qui veut devenir aussi grosse que le bœuf. Hein. Je serai séduit par ce fait de vouloir m'affirmer. Ça existera tout le temps, ça. Mais il y a quelque chose de beaucoup plus profond. Et dès que je dépasse tout cela, je le relativise. Et il y a quelque chose en moi qui est beaucoup plus limpide, qui est beaucoup plus fort. Cet acte d'adoration par lequel je m'offre, par lequel je remets tout entre les mains du Père. Je suis à lui. Et j'allais dire, lui est à moi. Et c'est vrai. Parce que Dieu, en créant, se donne. C'est un don paternel à sa petite créature. Je découvre ça, je découvre ce lien souterrain, caché, dans l'ordre de l'amour, mais dans l'ordre aussi de la lumière. Là, je découvre la source de toute lumière. Ça, c'est sûr. C'est lumineux, l'acte d'adoration. C'est très enraciné. Donc à ce point de vue-là, ça risquerait de devenir très opaque, mais aucune opacité. Parce que c'est rejoindre autant que je le peux l'acte créateur. Cet acte contemplatif de Dieu. À l'intérieur de sa contemplation, ce don que Dieu réalise comme Père, comme créateur. Cet acte d'adoration, cette vertu de religion va avoir immédiatement une conséquence très profonde. C'est que je découvre mes limites. Je suis un être spirituel créé par Dieu. J'ai une capacité d'aimer. J'ai une capacité de connaître. Je suis lié à un corps, à tout un conditionnement, à tout un atavisme. Je suis lié à ça. Je ne le supprime pas du tout. Dieu a voulu comme ça, comme créateur, me mettre dans cet atavisme, dans ces traditions religieuses, ces traditions familiales. Je dois les porter, tout ça. Je dois les transformer. Je découvre ma limite. Et par là, progressivement, en face de Dieu, je comprends ce que c'est qu'être vrai. J'allais presque dire ontologiquement être vrai. Reconnaître ses limites dans l'ordre de l'être. J'ai été créé à tel moment, dans tel lieu. J'aurais mieux aimé être né autre part. Ça peut arriver, ça. J'aurais mieux aimé être né à un autre moment. Naître au Moyen-Âge, au XIIe siècle, voyez ça, comme c'était admirable, c'est extraordinaire. J'aurais pu être enterré dans une cathédrale. Tandis que maintenant, hein, je suis enterré sur une autoroute, c'est pas très drôle. Hein. Tout le monde passe devant, ça passe comme ça rapidement. Je découvre cette limite. Et je découvre que dans chaque être, il y a quelque chose d'irréductible à un autre être. Je découvre dans les personnes humaines quelque chose d'unique. Et c'est ce quelque chose d'unique que je découvre dans chacun. Qu'ils le reconnaissent ou qu'ils ne le reconnaissent pas. Moi, je le reconnais dans la lumière même de l'adoration. Et c'est à partir de là que va naître cette attitude religieuse, je dis bien religieuse, d'aimer chaque personne humaine en tant qu'elle porte en elle la marque du Créateur. Et c'est ce qui me fait respecter d'une manière sacrée l'autre. C'est plus seulement une relation de philanthropie. J'aime le semblable. Parce qu'il est idiot comme moi. Vous voyez, c'est pour ça que je l'aime. J'aime mon semblable. C'est pas ça. J'aime l'autre parce qu'il dépend de Dieu. Nous formons la même famille. Nous avons le même père. Même si cet autre apparaît quelquefois comme ayant des attitudes tout autres que moi. Des attitudes que je peux considérer comme très primitives. Ça n'a pas d'importance. Il est actuellement aimé de Dieu, comme moi. Et à ce point de vue-là, il y a un amour unique de Dieu sur lui. Et cet amour unique de Dieu, mais cette marque de Dieu sur lui. Et cette marque de Dieu sur lui est originale, irréductible à la mienne. C'est ce qui me permet de m'humilier en face de lui. M'humilier, c'est-à-dire, comprenez bien, le laisser passer devant moi. C'est ça, cet aspect positif de l'humilité. Il y a quelque chose de positif dans l'humilité. C'est le respect que j'ai de l'autre pour le laisser passer devant moi. Vous voyez, à partir de l'adoration, je comprends mes limites. Et je vois que toute personne humaine est fondamentalement limitée. Et je vois donc que dans chaque personne humaine, il y a la marque du Créateur, la signature du Créateur cachée, que je découvre progressivement, ce qui me permet de laisser l'autre passer devant. Je ne pourrais pas dire, je m'humilie en face de toi parce que tu as telle qualité que je n'ai pas. Non, c'est pas ça. Je m'humilie en face de toi, je te laisse passer devant moi, parce qu'il y a en toi quelque chose de la marque du Créateur qui est unique. Nous avons, chacun d'entre nous, une irréductibilité personnelle qui provient que nous sommes tous relatifs fondamentalement à notre Créateur. Et donc il y a la marque de Dieu. C'est très grand, ça, vous voyez? Le fondement métaphysique ou théologique, si vous voulez, parce qu'on peut dire ici théologique, dans l'éthique religieuse de ce qu'on appelle un acte d'humilité. Et l'acquisition progressive de la vertu d'humilité. Je crois, alors ici, je vais essayer de voir que c'est quelque chose de propre à l'éthique religieuse. Je crois qu'une éthique purement humaine une éthique fondée sur l'amour d'amitié peut respecter l'autre mais ne me permet pas de m'humilier en face de lui en le laissant passer devant moi. Et ça, je vous pose ça comme question. C'est une très belle question, du reste. Vous pouvez écrire 3 pages là-dessus, faire un petit travail là-dessus. C'est très beau. Ça vous servira toute votre vie. Et ça vous servira au noviciat, de comprendre des quantités de choses que vous ne comprenez pas, que vous ne connaissez pas encore. On a toujours à creuser. L'exercice de la charité fraternelle, tant qu'on n'a pas compris que le voisin qui est à côté de nous, que Dieu a mis à côté de nous, curieux, j'aurais aimé plutôt d'être à côté de l'avant-dernier. Si j'avais su, je serais entré un peu plus tard. J'aurais été à côté de lui. Parce que lui, je sens que de naturalité, tandis que c'est à côté de moi. C'est quand même drôle que Dieu ait choisi comme ça. Il aurait pu me demander conseil, hein. Il a choisi comme ça, il a mis comme ça à côté. C'est une bûche, j'arrive pas à comprendre. Moi, je suis très sensible et lui, il l'est pas. Parce qu'on juge toujours, hein, la poutre et la paille, hein. Dans l'ordre de la sensibilité, dans l'ordre de l'affectivité, dans l'ordre de l'intelligence, la poutre et la paille. N'oubliez pas, quand je dis n'est pas sensible, et moi, qu'est-ce que je suis pour lui? Vous voyez, je crois que en dehors de l'attitude religieuse, il n'y a pas de vertu d'humilité. Cherchez bien dans Aristote la vertu d'humilité. Aristote reconnaît l'orgueil, l'hubris, l'orgueil, que les dieux punissent. Quand l'homme s'enorgueille, l'homme considère qu'il est la mesure de toute chose. L'homme s'exalte. L'exaltation de l'homme pour lui-même est quelque chose qui n'est pas bon et qui arrête l'amour. L'ennemi numéro un de l'amour, c'est toujours l'orgueil. Ça, le philosophe peut le reconnaître. Il peut le reconnaître. Et même il doit le reconnaître. Mais il ne voit pas très bien, philosophiquement, comment lutter contre cela. Et je crois qu'en éthique purement humaine, la seule chose qu'on peut à l'égard de celui qui est proche de nous, c'est le respecter. C'est déjà bien. Le respecter tel qu'il est. Sans vouloir le modeler selon notre propre caprice, selon nos propres idées. On a toujours un tout petit peu désir de faire ça. D'être éducateur de celui qui est proche de nous. J'ai très bien compris la providence. Il m'a mis celui-là à côté de moi parce que, oh là là, c'est une bûche, je vais pouvoir le tailler. Alors on le taille selon notre dimension à nous, pour qu'il soit notre image. On est. Celui-là n'est pas encore un éducateur hein, quand il fait ça. C'est tout simplement son orgueil qui veut tailler l'autre à son image. Je crois que l'éthique humaine ne va pas plus loin que le respect. L'éthique religieuse implique de laisser passer devant, par amour pour le Créateur, celui qui est proche de nous. Celui qui a quelque chose en lui d'irréductible par rapport à moi, qui est un reflet de Dieu, qui est un reflet du Créateur, qui est la marque du Créateur en lui. Et je reconnais ça, je l'aime. L'humilité implique un amour, hein. Il faut aimer celui qu'on laisse passer devant. C'est un acte d'amour, l'humilité. C'est dans votre volonté, l'humilité. Ce n'est pas dans votre intelligence. L'intelligence doit me permettre de discerner dans celui qui est proche de moi quelque chose d'irréductible par rapport à moi. Vous voyez, instinctivement, au plan philosophique, je ne sais pas pourquoi. Au plan théologique, je sais très bien pourquoi. Mais au point de vue philosophique, je ne sais pas pourquoi. Instinctivement, quand je suis à côté de quelqu'un qui est à côté de moi, je vois tout de suite ses défauts. Tandis que par rapport à moi, je ne sais pas pourquoi, mais je vois d'abord mes qualités. C'est comme ça. Je suis beaucoup mieux situé pour voir mes qualités. Et j'ai toujours un refuge énorme. C'est pas étonnant, les autres ne peuvent pas me voir, ils me voient de l'extérieur. Ils me voient de l'extérieur, alors c'est très rassurant, l'évangile, ne jugez pas selon les apparences. Pouh là là, ça me rassure, hein. C'est très curieux, le point de vue psychologique. Hein. Normalement, il y a certains qui toujours, toujours, toujours s'accusent. Alors on dit, il faut une petite psychose, hein, d'abandon ou d'infériorité. Ça va pas, ils s'accusent tout le temps. Je ne sais pas qu'à cause de ça, ils voient que les autres sont parfaits. Non, ça va pas jusque-là. Mais il trouve que ça va pas. Normalement, on s'aime. Normalement, il y a un amour naturel de nous. Je ne crois pas qu'il y a un instinct naturel de mort. Je crois pas. Certains disciples de Freud le disent, hein? Mais je crois que ça, c'est freudien. Ce n'est pas vrai. L'instinct de destruction, de mort, c'est à la suite d'une certaine multiplicité d'expériences, d'échecs. Un échec, puis un autre échec, puis un autre échec, puis un autre échec. Au bout d'un certain temps, on dit, mais quoi? Je suis bon à rien. Il vaut mieux que je disparaisse. Vous voyez, ce n'est pas du tout un instinct naturel. Ça provient d'une succession d'échecs. Ça provient d'un milieu qui est là tout le temps pour insister. Pas étonnant. Encore lui. Il a raté, il a raté, il a raté. Vous voyez, ce n'est pas quelque chose de naturel. Mais naturellement, on s'aime. On voit en nous ce qui est positif. Et on cache un peu le négatif. Et on arrive à le cacher assez bien, quand on est un peu astucieux. On arrive à se draper de façon assez bien, c'est élégante, style 17e siècle, ou style du Moyen-Âge, du 12e siècle, ou un autre style, ça n'a pas d'importance, style du 20e siècle, c'est autre chose. On se drape assez bien. On arrive, et les compensations, comme disent les psychologues, on arrive assez bien des compensations. On a fait ça toute sa vie. On a essayé de sauver un peu la face, quoi. Parce qu'on s'aimait bien. Alors on a sauvé la face, on a vu les complémentarités. Sur ce point-là, je suis fragile, je sais. Alors je vais faire autre chose. Ça en arrive psychologiquement, vous voyez. Je ne dis pas vertueusement, mais psychologiquement, on arrive à faire ça. Puis à un moment donné, dans l'ordre de l'amitié, en face d'un ami, on dit, il faut que je sois vrai. Et on avouera à son ami, tu vois bien, là je suis fragile, là j'arrive à me débrouiller. Aide-moi pour que je sois plus vrai. Et un ami nous aide à être plus vrai parce qu'il nous aime. Alors il redonne à nous une espèce de dignité vraie, qui n'est pas la fausse dignité dans laquelle on s'est drapé. Donc l'amitié arrive à corriger ça. Mais l'adoration va plus loin et me permet de comprendre mes limites. Mes limites radicales de créature et de découvrir dans l'autre des qualités que je n'ai pas. Et c'est ça l'humilité. L'humilité, c'est de connaître ses limites. Sans complexe. Sans complexe. Puisqu'on les voit dans l'adoration. Voir ses limites dans l'adoration en face de Dieu, c'est pas du tout un complexe. C'est comme ça. Dieu a voulu que je sois comme ça. Je sais bien que je suis limité. Et je sais très bien qu'à partir de ces limites, il y a eu des pentes glissantes que je peux essayer de redresser. Être vrai. C'est ce qu'on dira, n'est-ce pas? L'humilité, c'est être vrai. C'est pas entièrement juste de dire ça. C'est la condition sine qua non pour qu'il y ait l'humilité. Avoir un regard de vérité sur soi, de vérité pratique. Je sais que je suis un être limité. Je dépends de Dieu. Je suis une petite créature. L'humilité, ça regarde l'autre. C'est pas premièrement nous. Il faut être vrai pour être humble. Et l'humilité, ça consiste à mettre en lumière la qualité de l'autre. qualité de l'autre qu'on met en lumière, en pleine lumière. Oui, spontanément, je la vois pas. Il faut que je fasse un effort. Je dois faire un effort pour être humble. Oh, je sens bien, c'est même peut-être là où on fait le plus d'efforts. C'est pas naturel du tout, hein. Quand vous dites, ah, celui-là, il est naturellement humble, c'est de la blague. Il apparaît peut-être comme ça, mais il n'est pas du tout naturellement humble. Ça s'acquiert. Et je crois que c'est la vertu la plus difficile à acquérir. C'est curieux. On adore plus facilement que d'être humble à l'égard du prochain. C'est pour ça qu'il faut servir de l'adoration. Divinement. C'est par l'adoration que je deviens humble. Celui qui n'adore pas, qui fait des efforts énormes pour être humble, ça arrive. Mais c'est très difficile. Je crois que la voie normale pour l'humilité, c'est l'adoration. D'abord, celui qui rejetterait l'existence de Dieu, peut-il encore être humble? C'est une très grosse question. Ça, c'est intéressant parce que c'est là où on verrait si vraiment l'éthique religieuse nous apporte cette qualité de l'humilité. Je crois, réfléchissez-y là-dessus, c'est très délicat, je crois que l'éthique humaine fondée sur l'amour d'amitié ne me permet qu'une seule chose, d'être respectueux vis-à-vis de mon prochain. C'est-à-dire d'acquérir la vertu de justice. Je reconnais les droits de l'autre. Mais la vertu de justice, c'est pas l'humilité. L'humilité va beaucoup plus loin que la vertu de justice. Respecter l'autre, c'est très très bien. C'est très nécessaire. Dans toute vie commune, il y a le respect de l'autre. Il y a le respect de l'ami. Les sauvegardes de l'amour d'amitié. Le jour où on ne respecte plus son ami, l'amour d'amitié se corrompt. Parce que c'est la tyrannie. Quand vous êtes tyran de votre ami, ça ne dure pas très longtemps. Parce que la tyrannie tue l'amitié, parce qu'on ne respecte pas l'autre. On ne respecte pas l'autre dans sa liberté, dans sa conscience propre. Dans ce qu'il a de tout à fait propre, de tout à fait unique. Par l'adoration, je vais plus loin. Et je découvre cette possibilité de laisser l'autre passer devant moi, de le saluer, de le laisser passer devant moi, d'accepter que l'autre devienne plus vite que moi vertueux. D'accepter que l'autre devienne plus vite que moi intelligent. D'accepter que l'autre a des qualités que je n'ai pas. Pas commun d'accepter que l'autre a des qualités que je n'ai pas. Vous voyez, pour ça, l'adoration me permet cela. Alors posez-vous la question, on pourrait la mettre comme ça. La condition sine qua non de l'humilité n'est-elle pas l'adoration ? L'adoration n'est-elle pas le seul moyen d'entrer dans la véritable humilité? À ce point de vue-là, je dirais que seule une éthique religieuse, mais vraiment religieuse, parce que une éthique religieuse selon des traditions païennes, d'un Olympe, vous voyez, d'un démiurge, ne permet pas la même chose. Il faut une tradition religieuse monothéiste, une tradition religieuse qui me montre le Créateur. Le démiurge ne suffit pas. C'est le Créateur de mon âme. Alors à ce moment-là, je comprends que mon voisin, celui qui est à côté de moi, celui qui travaille avec moi, qu'il a des qualités que je reconnais ne pas avoir. Et ça ne m'inquiète pas, je ne suis pas jaloux de cela. Alors voyez, là, j'ai dit tout de suite, je ne suis pas jaloux de cela. Alors est-ce que l'adoration qui permet l'humilité, est-ce que l'adoration ne doit pas être la grande arme contre toute espèce de jalousie? Me mettre dans la vérité. Il y a un texte admirable là-dessus que j'ai le droit de prendre dans l'évangile de Saint Jean, Jean-Baptiste, qui reconnaît, hein, qui reconnaît que tout ce qu'il a de bien, il l'a du Créateur. Mais que ses dons sont limités et ne sont pas ceux de Jésus. Et donc il laisse passer devant Jésus. Alors que ses disciples ne voulaient pas laisser passer devant les disciples de Jésus. Ils en étaient jaloux. La jalousie, vous savez bien, ça fausse les rapports avec le prochain, celui qui est proche de nous. Ça tue cette confiance simple. L'adoration rétablit par l'humilité des rapports vrais. Et la jalousie est un peu écartée. Elle est momentanément écartée. Je crois que c'est très important de saisir que l'adoration me permet l'exercice de l'humilité et que l'exercice de l'humilité, c'est de laisser passer devant celui qui a des qualités que je n'ai pas. Et vous voyez, c'est objectif, hein, c'est pas subjectif. Parce qu'il y a une humilité subjective. L'humilité subjective, très vite, arrive à être une espèce de psychose, de petitesse, une attitude faussement humble, vous savez, qui fait que on se replie sur soi avec le complexe de l'infériorité. Le complexe de l'infériorité n'est pas l'humilité, c'est la grimace. Il y a une grimace de l'humilité. C'est ce complexe d'infériorité. Et dans le complexe d'infériorité, je dis, oh, c'est pas étonnant, moi, c'est moi. Tout ce que je fais, ça hâte. C'est complètement idiot de dire ça, parce que c'est pas vrai. Et ça, c'est le complexe d'infériorité. Et ce complexe d'infériorité n'est pas l'humilité. Ce complexe d'infériorité, c'est le retour sur soi, hein, tout simplement. Je vois la grimace de l'humilité. La véritable humilité, c'est pas du tout ce repliement sur soi. C'est au contraire regarder l'autre dans ses qualités objectives que j'ai découvert grâce à l'adoration. J'ai découvert qu'il y avait en lui quelque chose normal. C'est pas directement l'adoration, n'est-ce pas? C'est parce que l'adoration me donne le sens du Créateur, et me donnant le sens du Créateur, ça me permet de regarder l'autre dans la lumière du Créateur, et dans la lumière du Créateur, je vois qu'il y a en lui des qualités que je n'ai pas. Des qualités qui sont tout à fait propres. Alors à ce moment-là, il y a une objectivité dans l'humilité. Tandis que l'humilité, qui est trop subjective, ça consiste à m'efforcer maladroitement de dire « Ah oui, moi je suis rien, mais lui, oh lui, c'est extraordinaire. » Alors j'invente des qualités, je dis « Oui, il a toujours très bien réussi, lui, c'était comme ça. » Alors on invente, et petit à petit, il y a un complexe d'infériorité qui se fait. Et ce complexe d'infériorité n'a rien à voir, c'est subjectif, n'a rien à voir avec la vertu d'humilité. C'est en ce sens-là que la vertu d'humilité engendre en nous une attitude magnanime. C'est peut-être ça qui fait comprendre le critère de la véritable humilité. Mais avant de voir ça, ce serait peut-être intéressant de comprendre. Est-ce que je pose la nouvelle question? Je crois que c'est l'humilité qui est donc la vertu type religieuse. On la retrouvera en terre chrétienne sous un autre aspect, mais elle est déjà religieuse. crois qu'elle est typique de la créature qui reconnaît sa dépendance à l'égard du Créateur. Je me pose la question maintenant, est-ce que dans l'éthique religieuse apparaît la miséricorde? Est-ce que la miséricorde est propre à une éthique religieuse? Ou est-ce que la miséricorde est propre à l'éthique chrétienne? Vous savez, l'éthique religieuse va très loin. Et c'est intéressant de voir justement si vraiment l'éthique religieuse va impliquer l'éclosion de la miséricorde. Ce qui est sûr, hein, ça c'est très très net, c'est que l'éthique humaine n'a pas de place pour la miséricorde. Le vieil Aristote dit que la miséricorde, c'est le propre des mères. Et de la faiblesse des mères qui sont miséricordieuses pour leurs enfants. Et c'est pas une vertu, c'est une disposition affective. Il y a des gens qui sont miséricordieux par nature, ils ont une tendance de pardonner, de tout pardonner. Vous savez, c'est la vieille tante qui pardonne tout. Il y a toujours du chocolat dans ses et qui pardonne tout. La vieille tante non mariée, vous comprenez, c'est sûr. La vieille tante qui n'a pas d'enfant, alors tellement heureuse d'avoir des neveux et des nièces si gentilles, alors elle les accapare comme ça. C'est une tendance naturelle, c'est pas une vertu. On pardonne tout. On voile tout, tous les défauts. Donc pour Aristote, la miséricorde est une disposition affective relevant d'une certaine faiblesse. D'une certaine faiblesse. C'est pas une vertu. Non, c'est pas rationnel du tout. C'est affectif. Et purement affectif. C'est que dès qu'on voit la misère de quelqu'un, on pleure. On est tout de suite troublé intérieurement. C'est effrayant. Et on dramatise. Parce qu'il y a une certaine attitude comme ça de drame. Quoi. La vertu de miséricorde apparaît, évidemment, en terre chrétienne. Est-elle une vertu d'éthique religieuse? Alors on va essayer de voir ça la fois prochaine.